parce qu'il y avait une grève à l'appel de la CGT, notamment de RFI. Ce sont les techniciens chargés de réalisation radio, les TCR, qui étaient en grève, qui sont toujours d'ailleurs en grève. Et les grévistes, ils demandent deux choses, des augmentations de salaire, notamment pour les nouveaux entrants et pour mettre fin aux fortes disparités de salaire. Et puis, ils demandent de revoir leur mission, puisqu'aujourd'hui, la direction leur demande non seulement de faire du son, de la radio, mais aussi de la vidéo et bientôt du numérique et du web. Cette grève, elle se poursuit. On essaiera de vous en dire plus dans les jours à venir, autant que possible quand on aura de leurs nouvelles. Midi 10 à Bordeaux, donc nous dans le plat de résistance sur la clé des ondes. On va parler aujourd'hui de la Palestine, on fera un point sur la situation à Gaza et puis on se demandera comment soutenir le peuple palestinien ici en France et à Bordeaux avec deux assos qui se mobilisent pour ça depuis des années séparément, Palestine 33 et le comité Action Palestine. En fin d'émission, dans les clés des libertés, l'avocat Bruno Bouillet nous parlera, lui, du contrôle policier des téléphones. Et puis, à partir de 13h, ce sera la rediffusion de l'émission « À 7 tonnes », l'actu décapé par les chômeurs et précaires, qui recevait hier Myriam Eckert. On commence avant tout ça avec quelques infos. Bonjour Myriam.
Bonjour Baptiste.
Trois commanditaires présumés de l'assassinat de Marielle Franco au Brésil ont été arrêtés ce dimanche.
Oui, c'était une promesse de campagne du président Lula en réponse notamment au mouvement citoyen « Qui a tué Marielle Franco ?», ancienne conseillère municipale de Rio, figure de la gauche brésilienne et militante LGBT, avait été assassinée avec son chauffeur en pleine rue le 14 mars 2018, quelques mois avant l'élection de Jair Bolsonaro. 6 ans après, 3 suspects ont été placés en détention. 2 frères, tout d'abord, le premier, un ancien conseiller de la Cour des comptes du Brésil. Le second, lui, est actuellement député de l'État de Rio. Le troisième homme arrêté n'est autre que l'ancien chef de la police civile qui avait été à l'époque chargé de l'enquête sur l'assassinat de Marielle Franco et de son chauffeur. Concernant les tueurs eux-mêmes, il s'agirait de 2 policiers militaires déjà emprisonnés depuis 2019. Un schéma assez classique du fonctionnement des milices de Rio de Janeiro, contre lequel Marielle Franco s'était battue pendant toute sa carrière. L'enquête doit se poursuivre et étudiera d'autres pistes, comme par exemple celle de la potentielle implication de l'ancien président Jair Bolsonaro dans cette affaire.
On vient à Bordeaux avec les occupants d'un bidonville à Bordeaux-Lac qui ont été évacués hier soir.
Plus de 300 Roms de Roumanie, dont une centaine d'enfants, ont quitté leurs habitats de fortune hier après avoir été informés par la police que la préfecture prévoyait de les expulser ce jeudi. Cette expulsion fait suite à une décision de justice qui a donné raison à l'entreprise d'assurance GAN, propriétaire de la parcelle occupée située entre le parc des expositions et le stade Matmut Atlantique. Les familles y avaient trouvé refuge après avoir déjà été expulsées le 14 février dernier, alors qu'elles occupaient un terrain appartenant à Bordeaux Métropole, situé lui au nord de la zone commerciale de Bordeaux-Lac. Depuis 2016, ces occupants, qui comptent parmi eux de nombreux travailleurs de la vigne bordelaise, sont victimes de ces expulsions en série. Fatigués de cette errance, ils indiquent aujourd'hui dans les colonnes du journal Sud-Ouest la nécessité de se voir enfin attribuer un site stable où s'installer contre une participation financière de leur part.
La ligne de train Bordeaux-Lyon ne verra finalement pas le jour, en tout cas pas tout de suite.
Faute de fonds nécessaires, Railcoop a annoncé hier sa mise en liquidation par le tribunal de commerce de Cahors. Née en 2019, cette coopérative avait néanmoins réussi à réunir 14 500 sociétaires dont l'objectif était de relancer une liaison ferroviaire transversale entre Bordeaux et Lyon via les gares de Périgueux, Limoges, Montluçon et Roanne. Côté transport toujours, le collectif de cyclistes Masse Critique vous donne rendez-vous demain, vendredi à 18h, place du Colonel Rénal à Bordeaux. Un rendez-vous mensuel qui souhaite promouvoir l'usage du vélo à travers un parcours autogéré qui se terminera dans un lieu emblématique de la métropole.
Un accord historique a été trouvé entre les syndicats de vignerons en Gironde.
Les branches girondines de la FNSEA, des jeunes agriculteurs, de la Confédération paysanne, de la coordination rurale, ainsi que le collectif Viti 33 se sont tous mis d'accord sur la défense d'un prix minimum de la bouteille de vin. Ils demandent une rémunération qui soit basée sur les coûts de production et qui soit également établie par des indicateurs indépendants.
Et puis la Fédération des parents d'élèves, la FCPE de Gironde, appelle à des opérations collège mort aujourd'hui.
Mobilisés contre le choc des savoirs du gouvernement, les parents d'élèves ainsi que les syndicats SNES, FO, CGT et Sud donnent rendez-vous à tous et toutes devant le rectorat de Bordeaux pour un rassemblement qui se tiendra entre midi et 14h aujourd'hui. Un autre rendez-vous est également donné demain, vendredi à midi, sur le parvis de l'université Bordeaux-Montaigne à Pessac. Une assemblée générale de lutte sera organisée par les étudiants et les étudiantes qui poursuivent leur mobilisation contre la présidence de l'établissement, dont ils et elles reprochent la gestion des violences sexistes et sexuelles.
Merci beaucoup Myriam pour toutes ces informations. Midi 15 sur la clé des ondes. Alors ce samedi 30 mars, ce sera la journée de la terre palestinienne. Une journée qui commémore la répression sanglante d'une grève, le 30 mars 1976. Grève organisée par des Arabes israéliens contre la confiscation de leurs terres par Israël. Et une répression qui fit 6 morts. Alors ces 6 derniers mois, ce sont plus de 30 000 Palestiniens de Gaza, cette fois, qui ont été tués par l'armée israélienne, dont 12 300 enfants et 8 400 femmes, au moins 500 000 personnes déplacées dans la bande de Gaza. Cette guerre toujours en cours fait suite à l'attaque du Hamas et d'autres groupes armés palestiniens le 7 octobre dernier, qui a fait 1 200 morts israéliens et 240 prises en otage. Cette situation dramatique, toujours en cours, a entraîné des mobilisations dans le monde entier en soutien au peuple palestinien, et ça jusqu'ici à Bordeaux. Depuis presque 6 mois, donc, des rassemblements ou manifestations ont lieu chaque week-end, avec cette particularité qu'il y a quasi systématiquement 2 appels à Bordeaux et 2 rassemblements distincts. L'un à l'appel du comité Action Palestine 33, comité Action Palestine tout court, pardon, et l'autre à l'appel du collectif Girondin pour une paix juste et durable entre israéliens et palestiniens. On s'intéresse aujourd'hui à ce qui sépare ces deux mouvements, peut-être aussi ce qui les rapproche. Quelle différence de point de vue, de vision politique, de manière de soutenir le peuple palestinien peut-être entre eux. On va le faire donc avec 2 invités aujourd'hui. Tayeb El-Mestari, bonjour.
Bonjour, merci.
Tu es président du comité Action Palestine, et puis Ahmed Kasted, bonjour.
Bonjour.
Président du comité Palestine 33, merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté notre invitation et cette discussion. On peut dire que les relations entre vous, elles sont pas faciles, elles sont même plutôt tendues. Je ne sais pas si on peut parler de relations d'ailleurs. On n'est pas là en tout cas nous pour vous réconcilier, mais essayer de comprendre voilà, ce qui vous distingue et quelle vision, quelles options politiques peut-être vous, quelles options différentes vous représentez. Avant de faire ça, quand même un point sur la situation en Palestine et à Gaza. Alors lundi dernier, l'ONU a pris une résolution réclamant un cessez-le-feu immédiat à Gaza pendant la durée du Ramadan et la libération de tous les otages retenus par le Hamas. Apparemment, ça n'a rien changé à l'intensité de la guerre sur place. Comment est-ce que on pourrait décrire la situation et notamment ce que vivent les Gazaouis en ce moment même, Tayeb, pour commencer?
Merci à la Clé des Ondes de me donner la parole. D'abord, je voudrais faire une petite correction. Je suis l'un des porte-parole du comité Action Palestine et non son président. Sa présidente est Madame Nathalie Ola, juste pour rappeler cela. Ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, vous avez parlé du cessez-le-feu. L'ONU, à l'initiative de l'Algérie, a adopté une résolution de cessez-le-feu et Israël ne l'applique pas, évidemment. Israël, depuis son existence, elle n'a appliqué qu'une seule résolution, celle de sa création. Après, elle n'a appliqué aucune résolution. C'est-à-dire que Israël, et ça a été dit par les dirigeants israéliens eux-mêmes, qui ne respectent et qui ne se moquent du droit international, quoi qu'il soit. Et donc, ce n'est pas étonnant. En revanche, Israël, sur le terrain, vous avez essayé d'écrire un petit peu la situation, mais c'est pour nous, en tout cas au comité Action Palestine, la nature de l'État israélien est celle-ci, parce que depuis 1948, déjà à l'époque, ils avaient effacé 115 villages, le plus célèbre d'entre eux, Deir Yassin, où ils avaient massacré toute la population et ils avaient expulsé 800 000 Palestiniens qui aujourd'hui constituent à peu près 5-6 millions de réfugiés dans le monde qui réclament le droit de retour. Le droit de retour qui est l'un des principes du comité Action Palestine qui est reconnu sur le plan international. Donc en 1948, Israël avait déjà pratiqué l'épuration ethnique. Des historiens israéliens eux-mêmes comme Ilan Pappé avait démontré que c'était une épuration ethnique. Et aujourd'hui, pour le Comité Action Palestine, connaissant bien cette nature d'un État israélien fondé sur l'expulsion, l'épuration ethnique, puis l'expansion permanente, parce que rien n'arrête Israël. Vous savez que le Golan est sous occupation israélienne, une partie du Liban est encore sous occupation israélienne. Il avait déjà envahi le Liban en 1978, puis le Liban en 1982. Il avait occupé le Sinaï. Donc c'est sa nature en tant qu'État colonial de vouloir l'expansion permanente. Et donc aujourd'hui, ce génocide, comme l'a qualifié la Cour internationale de justice, n'est pas étonnant, nous, de notre point de vue, Comité Action Palestine, parce que nous savons que c'est un État sioniste, qui est fondé sur l'expulsion définitive des Palestiniens de la terre de Palestine.
Ahmed, peut-être, alors là on a le schéma, la vision un peu globale, peut-être sur le, je ne sais pas ce qu'on peut en dire, parce qu'on sait que c'est compliqué, y compris pour les journalistes, de travailler sur place, mais ce qu'on peut dire de la situation concrète aujourd'hui à Gaza pour les Gazaouis ?
Moi, je voudrais revenir sur deux mots que tu as utilisés, Baptiste. Premièrement, c'est « attaque des groupes armés palestiniens ». En réalité, quand la bande de Gaza est assiégée depuis 17 ans, ce n'est pas une attaque, c'est une contre-attaque. Parce que c'est les Palestiniens de Gaza qui sont attaqués en permanence par Israël, en les privant du matériel et de l'aide humanitaire nécessaire, en les privant de leurs droits fondamentaux de circulation. Gaza est enfermé, les pêcheurs de Gaza ne peuvent pas aller en mer, les frontières de la bande de Gaza sont fermées, sont contrôlées par l'armée israélienne, etc. Donc, parler d'une attaque, c'est comme si en fait rien n'existait auparavant et comme si en fait tout a été créé d'un néant, comme disait le secrétaire des Nations Unies. L'attaque ne vient pas d'un néant. Et ça, ça a rendu furieux les sionistes. Le deuxième terme que tu as utilisé, c'est le terme de guerre. Je ne pense pas qu'on peut parler de guerre quand il y a un peuple sous occupation depuis plus de 75 ans qui est en permanence harcelé, attaqué, et quand il a face à lui une armée israélienne qui est l'une des plus sophistiquées, les mieux équipées au monde et qui est soutenue, financée par les pays occidentaux. Donc je pense que ça, c'est un préalable pour garder en tête le cadre dans lequel s'inscrit la confrontation. Les Palestiniens ont été victimes d'une expulsion massive, d'un nettoyage ethnique. Le projet israélien, le projet sioniste, il est clair, c'est prendre la terre des Palestiniens, de toute la Palestine historique, et les expulser, et peut-être même un jour fonder le Grand Israël, le Eretz Israël, qui va de la mer au Jourdain, et qui peut, même certains qui disent qu'il doit aller jusqu'au Tigre, en Irak, etc. Donc, voilà la nature de la confrontation, et le débat, ou en tout cas la question palestinienne, n'a pas commencé avec l'occupation en 67, n'a pas commencé avec le 7 octobre 2023, n'a pas commencé à ces dates-là. La question palestinienne a commencé à la fondation du sionisme, au début, enfin plutôt à la fin du 19e siècle, et au projet de voler les terres des Palestiniens. Et le summum et le paroxysme de cette situation, ça a été la Nakba, l'expulsion forcée des Palestiniens. Mais il ne faut pas oublier le rôle qui a été joué par les Britanniques, qui ont massacré et qui ont contrôlé les leaders nationaux palestiniens pendant les années 30, qui essayaient de se libérer de l'occupation, voire même à l'époque c'était de la colonisation sioniste, en massacrant les leaders palestiniens. Et ça a été constaté pendant la guerre historique de 1936.
Je vous repose quand même la question, alors à laquelle il est peut-être difficile de répondre, encore une fois, mais qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de ce que vivent les Palestiniens ? Parce que j'ai cité le nombre de morts, et bon voilà, on peut faire ce bilan-là, mais c'est quoi le quotidien aujourd'hui des Gazaouis, plus précisément ? On parle de famine, on parle d'épidémie, on parle de déplacement de population, et donc voilà, comment ça se passe ? Enfin, qu'est-ce qu'on sait ? Est-ce qu'on en sait des choses, ou est-ce qu'en fait c'est tellement bloqué qu'il y a trop peu d'informations pour en dire plus sur ce que vivent les Gazaouis aujourd'hui ? Ahmed, de Palestine 33.
Et les informations nous arrivent. En fait, comme disait un responsable de l'ONU, on a un génocide qui se déroule sous nos yeux. Et on le voit tout le temps. Et en permanence. Le problème, c'est que quand c'est présenté dans les médias occidentaux, c'est toujours mis en doute. Pourquoi ? Parce qu'on a la version des Palestiniens. La version des Palestiniens, elle est toujours suspecte. Et ça, c'est insupportable. C'est toujours selon le Hamas. C'est toujours selon le ministère contrôlé par le Hamas, etc., etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Israël empêche les journalistes internationaux et indépendants de rentrer dans la bande de Gaza pour donner un reflet de ce qui se passe réellement, de montrer la réalité. Il y a des journalistes qui sont présents, les journalistes, certains journalistes de certaines chaînes arabes, comme Al Jazeera par exemple, qui font des directs en permanence depuis la bande de Gaza, mais qui sont aussi la cible de l'armée israélienne, parce que l'armée israélienne ne veut pas que les journalistes montrent la vérité. Il y a même des journalistes qui sont assassinés, les journalistes en ce moment, et des journalistes d'Al Jazeera qui sont dans le centre hospitalier Al-Shifa, qui sont bombardés par l'armée israélienne en permanence. Tout ça pour cacher, pour contrôler le récit en fait. Israël, ce que veut Israël, c'est contrôler le récit pour se montrer toujours en position de victime. Et ça, c'est insupportable parce que les médias et les responsables politiques occidentaux sont complices de ça, tombent dans ce piège, volontairement ou involontairement.
Sur cette question, Tayeb El-Messari, du Cap.
Alors, notre analyse au Cap, elle est très claire, c'est que cette guerre israélienne à Gaza et en Palestine, c'est une guerre occidentale en réalité, c'est la guerre des Américains, c'est la guerre des Français. On a appris hier par, ou avant-hier par Disclose que la France fournissait des armes jusqu'en octobre aux Israéliens qui, avec lesquels ils assassinaient notamment les attroupements pour l'aide humanitaire. Donc, notamment, il y a eu un épisode, une centaine de Palestiniens ont été mitraillés avec les balles françaises en Palestine. Donc, forcément, la propagande ici, elle est toujours du côté israélien. Vous n'avez qu'à ouvrir la télévision française, la radio française. La propagande, évidemment, comme l'a dit Ahmed, elle discrédite la parole palestinienne, mais ça, on a l'habitude depuis des années, et donne du crédit à tout ce qui vient des porte-paroles officielles de l'armée israélienne. Vous avez remarqué combien les porte-paroles de l'armée israélienne parle aujourd'hui dans les médias français, donc c'est forcément de la propagande, et la propagande israélienne, comme la propagande occidentale en général, c'est du mensonge pur et simple. Vous savez qu'Israël a été fondé sur un mensonge, en tout cas au niveau de la propagande, pour il voulait un État dans une terre sans peuple, pour un peuple sans terre. Évidemment, c'était le plus grand mensonge. Aujourd'hui, vous avez plein de réseaux pour vous informer, je pense à Telegram, vous avez aussi des grandes chaînes arabes comme Al Jazeera, qui tous les jours montrent ce que subissent les Palestiniens. Ça a été décrit tout à l'heure, ce n'est pas la peine d'y revenir. La famine est une arme politique aujourd'hui entre les mains des Israéliens pour les contraindre à la négociation, ce que les Palestiniens refusent, et à juste raison. Il faut souligner aussi que vous avez parlé de 12 000, mais je crois que les chiffres, c'est à 15 000 enfants assassinés par l'armée sioniste. Il y a des opérations qui se font sans anesthésie. Évidemment, la famine menace des milliers de Palestiniens. Aujourd'hui, évidemment, l'information sur le terrain, elle est très contrôlée, ça a été dit. Les Israéliens, non seulement empêchent des journalistes indépendants d'y entrer, mais aussi assassinent. Je crois qu'on est à 173 journalistes palestiniens assassinés, sans remuer plus que ça les journalistes français et ce pays qui a revendiqué depuis des années et des années parler au nom des droits de l'homme. Donc effectivement, la situation, elle est connue. Il suffit aux gens d'aller voir sur les réseaux sociaux. Ils ont toutes les informations sur la question humanitaire. Je voudrais revenir sur, puisque tout à l'heure vous avez été corrigé un terme qui est souvent utilisé, que je ne laisse pas passer pour ma part. Quand on parle de questions palestiniennes, il n'y a pas de questions palestiniennes. Les Palestiniens n'ont jamais fait problème sur leur terre. Il y a une cause palestinienne à défendre, mais il n'y a certainement pas une question palestinienne.
Et effectivement, j'avais pas vu passer, mais le site Disclose, le média Disclose, il y a trois jours, avec Mars Actu, a révélé que la France avait autorisé fin octobre 2023 la livraison à Israël d'au moins 100 000 pièces de cartouches pour des fusils mitrailleurs susceptibles d'être utilisés contre des civils à Gaza. Vous avez déjà commencé un peu à rentrer dans la discussion, mais sur la question du positionnement politique qu'on peut avoir ici en France vis-à-vis de ce qui se passe en Palestine et à Gaza. Dans un premier temps, sur cette question des formes de résistance palestinienne, des mouvements palestiniens, quelle est votre position aux uns aux autres, à chaque collectif, sur les différentes formes de lutte qui peuvent émerger de ce peuple palestinien? Est-ce que vous vous dites, comme on peut l'entendre parfois, c'est à eux de choisir les formes de lutte qu'ils ont envie et qu'ils jugent opportunes. Ou est-ce que vous faites des distinctions? Sans refaire la polémique, il y a eu cette polémique sur la question de est-ce que le 7 octobre c'était de la résistance ou est-ce que c'était du terrorisme. Quel est votre positionnement sur cette question-là de qu'est-ce qui a pu être soutenu comme mouvement social, comme résistance, comme mouvement nationaliste palestinien? Ahmed Kassed, Palestine 33.
Et pour moi, en fait, oui, effectivement, les Palestiniens, ils ont le droit de choisir tous les moyens nécessaires et qui jugeront adéquats pour lutter contre l'occupation et la colonisation. Il faut rappeler que les Palestiniens, ils ont tout essayé. Les Palestiniens, au début, le mouvement, c'était un mouvement plutôt de gauche, on va dire d'extrême gauche. Ensuite, il y avait un mouvement nationaliste arabe. Et tout le temps, Israël qualifiait ces mouvements-là de Hitler, de nazis, etc. Il essayait toujours de disqualifier les mouvements de libération nationale à l'époque en Palestine. Ils ont essayé les négociations, ils ont essayé la lutte armée à l'époque des Fedayines, à l'époque de Yasser Arafat, à l'époque des groupes armés palestiniens. Ils ont essayé les négociations, il y a eu la conférence de Madrid, il y a eu les accords d'Oslo, ils ont tout essayé, mais Israël ne veut pas la paix. C'est ça, en fait, que les gens ne veulent pas comprendre. Israël, comme on l'a dit au début, Israël veut prendre les terres des Palestiniens, expulser les Palestiniens et les remplacer au final. Et s'ils pouvaient remplacer tous les Palestiniens, les expulser, parce qu'ils leur disent tout le temps ça, pourquoi vous voulez rester en Palestine ? Il y a plusieurs pays arabes qui sont à côté, pourquoi vous n'y allez pas ? Pourquoi vous acharnez à vouloir rester sur vos terres, mais allez ailleurs, la Palestine, il n'y a rien ici, comme ça a été dit, c'est une terre sans peuple, donc partez et laissez-nous la terre, en fait. Et donc, du coup, bon, effectivement, les Palestiniens, ils ont le droit, et c'est à eux de décider, de choisir de manière souveraine, et de la manière qui leur paraît la plus judicieuse, de choisir les moyens de résistance, y compris par la lutte armée, y compris par toutes les autres formes de résistance, comme j'en ai parlé tout à l'heure, la grève générale en 1936, c'était une forme de résistance déjà, et ça a été réprimé dans le sang, ça a été réprimé par les groupes sionistes, comme ça a été réprimé par les soldats du mandat britannique.
Taïeb El Mestari, du CAP, là-dessus ?
Alors, s'il y a une raison pour laquelle le Comité d'Action Palestine a été créé, c'était justement sur cette discussion-là. Est-ce qu'on soutient la résistance, toutes les formes de résistance, ou pas ? Le Comité d'Action Palestine a été créé, je rappelle quand même, à partir de Palestine 33, on était membre à Palestine 33, on était sur cette position, on a créé le Comité d'Action Palestine en disant notamment que les Palestiniens, ça vient d'être dit, choisissent les formes de résistance qu'ils souhaitent. Et ça, c'est le premier principe anticolonialiste. On ne parle pas à la place des colonisés. Ce sont eux, dans le principe d'autodétermination, qui choisissent les moyens de leur défense et de leur libération. Pour cette raison, le Comité d'Action Palestine a toujours dit ouvertement et s'inscrit sur sa charte, on soutient toutes les formes de résistance du peuple palestinien, à côté des autres principes, la condamnation catégorique du sionisme comme un colonialisme, le droit au retour des Palestiniens, de tous les réfugiés, reconnus par le droit international, ce qui poserait problème, si on y reviendra tout à l'heure, pour la question des deux États, évidemment, parce que le retour de 6 millions de Palestiniens ferait effondrer rapidement l'État israélien, l'État sioniste. Donc là-dessus, le Comité d'Action Palestine a été très clair, et c'est ce qui nous a valu des embêtements de l'État français, c'est-à-dire notre dissolution, notre tentative de dissolution en 2022, pour laquelle on n'a pas été soutenu ici, à Bordeaux, principalement chez nos camarades qui soutiennent la solidarité au peuple palestinien. Donc, effectivement, nous avons été, pour cette raison-là, pour le soutien à la résistance armée, de toute la résistance armée. Le 7 octobre, apparemment, a fait évoluer les bases de certaines associations qui, auparavant, condamner la résistance armée et la résistance des organisations islamiques. C'est très bien que les gens évoluent, c'est parfait, et que nous sommes très contents de cette évolution dans un certain nombre d'associations en France qui considèrent aujourd'hui que face au génocide, le peuple palestinien n'a pas le choix que de résister, et de résister notamment par la résistance armée qui est reconnue sur le plan international pour les peuples qui sont colonisés.
Ahmed Kassel, la Palestine droit, c'est une évolution, ça, ce que dit Taïeb,
c'est pas une évolution. L'AFPS, qui est l'association nationale dont dépend, donc l'association France-Palestine Solidarité, dont dépend Palestine 33, a toujours reconnu le droit à l'autodétermination du peuple palestinien et le droit au peuple palestinien de choisir une forme de lutte, qu'elle soit armée ou non, en fonction du contexte dans lequel s'inscrivent les Palestiniens, qu'ils soient en Cisjordanie, qu'ils soient dans la bande de Gaza, qu'ils soient dans ce qu'on appelle les territoires de 1948 ou qu'ils soient des réfugiés à l'extérieur. C'est à eux de choisir la forme de résistance. Je ne voudrais pas revenir tout de suite sur le soutien au Comité Action Palestine. Peut-être qu'on parlera après de comment ça se passe, en fait, les relations avec le Comité Action Palestine. On a pas mal d'éléments là-dessus à discuter par la suite. Mais effectivement, ce n'est pas une évolution. Le mouvement de solidarité internationale avec la Palestine a toujours été très clair. Alors, c'est un mouvement qui est hétérogène. Il y a des gens qui, éventuellement, peuvent dire que nous, on est uniquement pour les négociations. Je ne parle pas de la France, je n'en connais pas. Mais en tout cas, les gens avec qui je milite, qui sont dans la FPS, qui sont dans Palestine 33, depuis que je les connais, je sais qu'ils sont pour le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Et donc, de choisir les moyens de sa lutte. Donc, dire, en fait, ça, on y reviendra par la suite, dire qu'il y a des gens qui ne sont pas pour la résistance armée, et donc c'est pour ça que nous, on est à part, etc. Bon, en tout cas, ce n'est pas ce que j'ai vu. J'espère que, bon, on en reparlera par la suite, évidemment, mais ce n'est pas une évolution. Pour répondre à ta question, et après on y reviendra.
Alors maintenant, la question à plus long terme, sur celle des perspectives, sur comment on met fin à cette situation, comment on rétablit les droits du peuple palestinien sur cette terre. Peut-être, Palestine 3, vous parlez d'une paix juste et durable. Avant d'entendre la critique du CAP, qu'est-ce que vous entendez par là, et qu'est-ce que ça signifie, une paix juste et durable? C'est quelque chose qui reste assez large comme formulation, peut-être?
Oui, oui. Alors ça c'est le nom qu'a choisi le collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Mais avant de revenir à ça, moi je voudrais d'abord qu'on parle des moyens d'action et de militantisme ici pour les groupes de solidarité avec la Palestine. Ce que rappelait tout à l'heure Taïeb, c'est que il y a des principes qui sont dans la charte du CAP qui sont le droit à l'autodétermination du peuple palestinien, le droit au retour des réfugiés et le soutien à la résistance du peuple palestinien. Sur ces quatre points-là, sur ces trois plutôt, et le quatrième aussi, c'est la libération de tous les prisonniers politiques. Sur ces quatre points-là, la FPS est entièrement d'accord. Elle est sur ces positions-là. Après, comment nous, ici en France, on va aider le peuple palestinien pour réaliser ses droits? Nous, on n'est pas là-bas. Et on ne va pas, aller s'ingérer dans les affaires intérieures des Palestiniens, etc. C'est à eux de faire le boulot, ils font déjà leur travail. Nous, notre moyen d'action, c'est de faire pression sur le gouvernement français. Faire pression sur le gouvernement français, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'allier avec d'autres organisations ici en France qui pèsent d'un point de vue numérique, qui pèsent d'un point de vue politique, leur faire changer de position, influencer leur vision de la situation en Palestine, de manière à ce qu'on apporte un soutien non seulement politique, mais aussi un soutien diplomatique, un soutien économique, et en même temps essayer d'affaiblir Israël. C'est-à-dire de manière à ce que la France sorte de cette vision comme quoi Israël est son allié, comme quoi Israël est un partenaire économique ou un partenaire stratégique. Mmh. Nous, ce qu'on dit, c'est que non seulement Israël n'est pas un allié politique, parce que Israël est en contradiction totale avec tous les principes de la République française, mais en plus, Israël n'est pas un allié économique ou un allié stratégique. Israël est un facteur de guerre et de déstabilisation et de conflit dans le monde et dans le bassin méditerranéen, dans la France et voisine. Donc, pour nous, c'est de changer la vision et la politique de la France et de changer le rapport qu'ont les Français, les médias français, les intellectuels français avec la cause palestinienne.
Donc ça veut dire, si je résume, que l'action ici en France, pour vous, à Palestine 33, à la FPS, elle ne peut être que sur le poids que la France représente au niveau international, au niveau géopolitique, par rapport à Israël, et que, en fait, derrière, la question de paix, de deux États, etc., en fait, c'est à eux, avec le soutien extérieur, palestinien pourra avancer là-dessus. Voilà.
C'est les Palestiniens qui décideront, et c'est eux qui mènent la bataille sur le terrain. C'est eux qui mènent la lutte armée, parce que La lutte armée est une forme de résistance pour les peuples palestiniens pour qu'ils soient en position de décider de leur destin et de maîtriser leur destin. Nous, honnêtement, hein, moi je vois pas la... Enfin, je pense pas que les Français vont leur envoyer des Kalachnikovs, ils vont pas leur envoyer de l'argent, on n'a pas des camps d'entraînement pour entraîner ici des combattants, on n'a pas des combattants à envoyer, etc. Donc dire qu'on est pour le soutien à la cause, à la résistance palestinienne, c'est un soutien moral. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait après? Parce que si on s'arrête, parce que la position du CAP, c'est ça qui me pose problème.
Alors on va avoir leur position juste après.
C'est que le soutien à la résistance, déclarer que le sionisme est un mouvement antiraciste et colonialiste, etc., c'est toujours un préalable avant chaque discussion avec chaque groupe. Nous, on essaye de travailler avec des groupes pour obtenir des victoires circonstanciées sur certains sujets, sur le sujet de la livraison des armes, sur le sujet des sanctions, sur le sujet du boycott, sur le sujet de la coopération économique, sur le sujet des relations avec Israël. On essaie d'obtenir des victoires, on soit efficace là-dessus, et après on discutera de l'antisionisme, on discutera des principes qui sont déclarés dans la charte du CAP.
Alors, Taïeb El-Messari, pour le CAP là-dessus, j'ai l'impression qu'il y a deux questions un peu qui se mélangent. C'est d'une part, est-ce que vous avez un projet, est-ce que vous soutenez un projet politique ou une organisation en Palestine et voilà, qui concerne la paix, la décolonisation, etc. Et quel rôle vous donnez, quels moyens d'action vous avez en tant que CAP pour peser sur cette situation-là, Taïeb El-Messari?
Alors, depuis 2004, la position reste inchangée parce que c'est un principe, et un principe politique ne change pas selon les circonstances. Nous soutenons toutes les formes de résistance, nous ne soutenons pas une organisation plus particulièrement en Palestine. Nous soutenons les organisations qui représentent légitimement le peuple palestinien. Vous voyez, aujourd'hui, à Gaza...
Qu'est-ce que ça veut dire, représenter légitimement le peuple palestinien?
Oui, qui représentent légitimement, c'est-à-dire les organisations qu'elles se sont données. Aujourd'hui, en Palestine, il faut être très concret, il y a le Hamas, qui est une forte organisation, il y a le Djihad islamique, qui est une organisation aussi importante. Nous avons le FPLP, qui plutôt on constitue ici à gauche, le FDLP et d'autres petits mouvements. C'est toutes ces organisations qui aujourd'hui combattent ensemble. Donc le peuple, en quelque sorte palestinien, a donné mandat à toutes ces organisations pour les représenter et porter la résistance armée contre l'ennemi sioniste. Il y a une question qui a été esquivée
armée,
tout à l'heure.
Armée et pas seulement armée?
Mais aujourd'hui elle est armée. Pas seulement armée, bien sûr, il y a différentes phases du combat palestinien. Vous savez, sur le plan diplomatique, il y a un combat qui est en train d'être mené, sur le plan politique, etc., avec des alliés du peuple palestinien, que sont le Liban, sur le plan de la résistance armée, ou le Yémen, qui apporte un soutien considérable, et c'est ça qui, aujourd'hui, fragilise beaucoup le sionisme. Mais sur le plan politique, avec ses alliés, le Brésil, on a parlé tout à l'heure du Brésil, avec ce qui s'est passé, mais Lula soutient, il a eu des mots durs envers l'État israélien, qu'il a accusé d'être génocidaire. Nous avons l'Algérie qui a mené l'initiative de la résolution, l'Afrique du Sud qui a mené un combat aujourd'hui qui a été décisif pour délégitimer le sionisme et montrer son vrai visage, ce combat au niveau de la Cour internationale de justice. Donc il y a différents niveaux d'affrontement politique, idéologique, culturelle et militaire, et nous soutenons toutes ces phases-là qui vont dans le sens de la résistance du peuple palestinien. Vous savez, nous, on a toujours dit, nous ne suivons que ce que disent les résistants là-bas. Ils ont proposé, par exemple, à partir d'octobre, qu'on parle de cessez-le-feu. Le Comité Action Palestine a porté ce mot d'ordre de cesser le feu. Aujourd'hui, demain, la résistance dit autre chose. Le Comité Action Palestine dira exactement la même chose parce que nous sommes ici en Europe et nous devons porter, et c'était ça la mission du Comité Action Palestine, informer ici en France, parce qu'on l'a dit tout à l'heure au début, et tu l'as dit toi tout à l'heure, Ahmed, qu'il y a du mensonge et de la propagande, informer réellement sur ce qui se passe en Palestine, informer sur la résistance, ces organisations. Évidemment, ici en France, où tout à l'heure on a parlé, vous avez dit qu'on allait peut-être aborder ce sujet de l'islamophobie, mais aujourd'hui on a été obligé de défendre toute la résistance, parce qu'effectivement l'islamophobie en France, non seulement sert à disqualifier aujourd'hui les minorités immigrées issues des anciennes colonies, la communauté musulmane, mais elle a servi aussi à délégitimer la résistance armée portée par des organisations islamiques. Et c'était ça notre point de différence depuis très longtemps, et ça peut pas être nié, depuis très longtemps, entre nous, le Comité Action Palestine, avec un certain nombre d'associations localement ou plus nationalement. Par contre, j'aimerais revenir à une question que tu as posée, Baptiste, qui est très intéressante, c'est une paix juste et durable. Tout à l'heure, il a été question de porter des victoires, mais il me semble qu'ici en France, aujourd'hui, il n'y a eu aucune victoire portée par ce comité pour une paix juste et durable. Et qu'est-ce que ça veut dire, une paix juste et durable? Ça veut dire, tout à l'heure, le concept de guerre a été, à juste titre, contesté par Ahmed. Une paix juste et durable signifie implicitement qu'il y a une guerre entre deux puissances équivalentes, mais ce qui n'est absolument pas le cas. Ce qui est le cas, c'est qu'on a une guerre coloniale, une oppression coloniale contre un peuple qui résiste contre son anéantissement. Donc l'idée, ça serait bien de revenir sur cette question de paix juste et durable, parce que ça signifie aussi implicitement qu'on reconnaît Israël, et qu'on reconnaît Israël à partir de 48. Parce que si on reconnaît une paix juste et durable, c'est entre deux acteurs que nous reconnaissons légitimes. Nous, au Comité Action Palestine, nous ne parlons pas de paix juste et durable, mais de la libération et de l'autodétermination du peuple palestinien, avec les moyens qui s'est donné pour y arriver. Donc, si la question c'est comment le peuple palestinien va y parvenir, ça c'est juste le terrain qui va dicter cette réponse-là. Est-ce que la résistance est capable d'aller jusqu'au bout et de gagner cette bataille aujourd'hui à Gaza, qui est stratégique? Si Israël perd, Israël s'effondrera. Si la résistance gagne, effectivement, c'est toute la Palestine qui sera libérée à plus ou moins long terme.
Alors bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais j'ai l'impression, ce que je rembasse, c'est justement vous rattachez tous les deux à ce que dit la résistance et ce que disent les Palestiniens. Et en même temps, là, je vois une différence entre la libération de la Palestine et la question de la paix. Que disent là-dessus les mouvements palestiniens? Est-ce qu'ils veulent la libération de la Palestine et qu'est-ce que ça veut dire? Ou est-ce qu'ils veulent la paix et qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là? Ahmed de Palestine 33.
Ce que disent les Palestiniens depuis la Nakba et ce que nous on dit à l'AFPS et au Comité Palestine 33, c'est que le sionisme, c'est une idéologie raciste et colonialiste qui est dangereuse et qui doit être combattue. Et que pour ça, pour que la paix advienne dans cette région, même si on ne va pas rentrer dans le fait que c'est une paix entre deux acteurs, etc., mais pour que les Palestiniens retrouvent leurs droits, il faut que le sionisme disparaisse. Il faut que le sionisme soit combattu en tant qu'idéologie. Comme à l'époque, il y avait des gens qui avaient un problème avec le communisme et ils voulaient combattre le communisme, comme il y avait des gens qui sont pour des changements de régime, nous, ce qu'on veut, c'est un changement de régime en Israël. Nous voulons que l'idéologie sioniste sur laquelle se fonde l'État israélien, par ses institutions, par ses structures de pouvoir, soit combattu et soit remplacé par ce que les Palestiniens ont proposé dès les années 60, qui est un État laïque et démocratique et garantit l'égalité de tous ses citoyens. C'était la charte de l'OLP. Et tout à l'heure, quand Taïeb parlait des représentants des Palestiniens, bah, l'OLP est censé être le représentant des Palestiniens.
Donc, et l'OLP, de libération de la Palestine.
Et l'Organisation de libération de la Palestine, qui fédère l'ensemble des mouvements de résistance et l'ensemble des mouvements politiques palestiniens. Et n'oublions pas que l'OLP a proclamé un État palestinien en 1988 à Alger. Et donc, bon, la question d'un État, deux États, c'est une question compliquée. Ce n'est pas à nous de la décider. Encore une fois, nous, ici, on est en France. Bon, on ne va pas décider de ce qu'on va faire les Palestiniens, quelle forme ça va avoir. Mais nous, ce qu'on doit faire, c'est combattre le sionisme et soutenir les Palestiniens pour obtenir des gains ici en France, des gains qui soient concrets, matériels, et pas simplement des déclarations et des postures qui empêchent justement une alliance pour fédérer un maximum de monde, pour peser politiquement et obtenir ses victoires. Et à mon avis, c'est ça le problème avec le CAP, c'est que le CAP, il a un préalable, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui doivent se déclarer anti-sionistes avant que le CAP puisse travailler avec eux. Et remarque au passage, hein, le Hamas, il ne fait pas ça. Hein. Les groupes armés et les groupes de résistance palestinienne, ils travaillent avec la Russie. La Russie, elle ne s'est jamais dite qu'elle est anti-sioniste. Ils travaillent avec le Brésil, avec l'Afrique du Sud, avec le Qatar, avec la Turquie. Ils ont tous des relations avec Israël. Et pourtant, le Hamas, il est avec eux. Si le Hamas devait faire comme le CAP, exiger que des gens soient anti-sionistes pour qu'ils puissent travailler avec eux, à mon avis, ils iront nulle part. Donc le Hamas, ils sont beaucoup plus réalistes, ils sont beaucoup plus fins dans la tactique politique pour mener la lutte, que simplement de revendiquer et d'exiger des postures d'antisionisme et des postures morales avant de faire n'importe quelle, quelle action de lutte sur le terrain.
Taïeb Benitchari, sur cette question de l'antisionisme, est-ce que voilà, ça correspond, ce que dit Ahmed correspond à votre position? Et puis tout à l'heure tu disais Palestine 33 avec ce truc-là n'a aucune victoire, est-ce qu'on peut vraiment mesurer les victoires, que ce soit pour Palestine 33 ou pour le CAP, de ce que ça fait de militer pour cette cause ici en France et de ce qu'on obtient comme avancée? Taïeb El-Mestari du CAP.
Moi, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que le Comité Action Palestine, ayant ces positions-là, qui étaient minoritaires sur l'antisionisme, sur le soutien à toutes les résistances, évidemment, nous sommes restés minoritaires jusqu'au 7 octobre. Mais le 7 octobre a validé la position du Comité Action Palestine. C'est qu'aujourd'hui, il n'est pas au courant, mais c'est normal, c'est que nous travaillons avec beaucoup d'associations au niveau national. Le Comité Action Palestine est invité à plusieurs débats, plusieurs associations. Donc le 7 octobre a fait basculer l'opinion, a fait basculer les associations et a, permis à ce que les idées du CAP soient aujourd'hui, victorieuses sur le plan idéologique en tout cas. Et donc aujourd'hui, nous travaillons largement au niveau national avec un certain nombre d'associations. Et ce qui a été dit, est-ce que nous posons ça comme un préalable? Nous avons déjà fait un texte et j'invite tout le monde à le lire, un texte qui s'intitule tout simplement « Pourquoi deux mouvements de solidarité avec la Palestine sur Bordeaux » où nous explicitons effectivement les positions des uns et des autres, où nous disons justement que nous sommes ouverts à toutes les discussions, contrairement à la caricature qui vient d'être faite.
Et justement, si je m'appuie sur ces textes-là, vous accusez Palestine 33 de normaliser le sionisme, de parler de paix, etc. Est-ce que c'est pas que des mots? Est-ce que derrière, vous n'êtes pas d'accord au final sur les postures?
Non, on n'est pas d'accord évidemment sur le fond, parce qu'évidemment sur la charte de Palestine 33, il est bien question de deux États, la reconnaissance de deux États. Ce que le Comité Action Palestine s'est toujours refusé, à moins que la charte ait changé, mais en tout cas ce que le Comité Palestine, justement en vertu du principe que seuls les Palestiniens décident, nous n'avons pas porté cette idée qu'il y aurait deux États, mais soutenir simplement et porter la voix ici en France des Palestiniens et de sa résistance. Je voudrais juste rajouter quand même quelque chose. Tout à l'heure, il y a eu quand même une contradiction entre le fait de déclarer que les Palestiniens décident de tout et que juste après, on dise « Ah, mais il faudrait un État pour tous, démocratique et laïque ». Je pense que les Palestiniens n'ont pas été consultés là-dessus. C'est peut-être un désir ou un idéal de ici, pourquoi pas. Mais je pense que sur cette dimension d'un État unique, démocratique et laïque, c'est encore une fois parler à la place des Palestiniens. C'est eux qui décideront de la forme de leur État. Le principe anticolonial fait que nous sommes à l'écoute et porter la voix du peuple palestinien et non pas recommander une forme d'État ou une autre en Palestine.
Réponse à mettre sur cette question pour l'OSI 33.
Moi, ce que j'ai dit, c'est que un État laïque et démocratique, c'est ce qu'avait proposé l'OLP dans sa charte dans les années 60. Je ne dis pas que c'est ce que la FPS défend. Encore une fois, la FPS, dans son rapport d'orientation, le dernier rapport d'orientation, elle est très claire. Elle défend le droit des Palestiniens à l'autodétermination, à faire valoir leurs droits nationaux, à la libération en tant que mouvement de libération nationale. Et là-dessus, on ne peut pas dire que la FPS soutient une forme ou une autre. La FPS dit clairement, nous soutenons la résistance palestinienne, le combat palestinien pour résister, exister. Nous défendons leur droit à la résistance sous toutes ses formes. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, encore une fois, moi, je reviens. Pour moi, le principal problème est sur la forme des luttes. Dans sa charte, le CAP, il dit que ces principes-là, ou en tout cas que le CAP accepte, est ouvert à toute personne, mais à condition que les sensibilités ou les convictions de ces gens-là, qu'elles ne doivent pas en aucun cas prendre le pas sur les principes énoncés dans la charte, et dans un autre article disent que ces principes sont non négociables, etc. Mais il faut voir qu'on est en France, on est dans un contexte où, en France, on ne peut pas demander à toutes les organisations politiques, syndicales, etc. françaises de se déclarer d'abord antisioniste, de se déclarer de ne pas reconnaître Israël avant de travailler avec ces organisations-là. On n'est pas même dans les pays arabo-musulmans, même les pays arabes, même les pays de la conférence islamique, ils reconnaissent plus ou moins Israël en disant qu'ils veulent revenir aux frontières de 67. C'est une reconnaissance implicite. Donc, même au sein des pays arabes et des pays qui sont les plus dans la défense du peuple palestinien, et n'exigent pas ça au préalable. Et donc, le fait d'exiger ça, c'est toujours diviser le mouvement. Après, le problème du CAP, c'est qu'il attaque en permanence les gens qui sont dans la solidarité, mais qui ont une autre opinion ou une autre vision, une autre traduction de la solidarité. Et le problème, c'est que le CAP et Taïeb, il vient insulter des militants parce que ces militants, soi-disant, ils leur accordent une position caricaturale en disant « ce sont des sionistes de gauche, ce sont des gauches blancs, anticolonialistes, qui sont paternalistes, qu'ils parlent à la place des Palestiniens, etc. » Et donc, il y a notamment... Il critique ouvertement l'UJFP alors que l'UJFP se déclare comme anti-sioniste,
anti-raciste. Donc l'Union juive française pour la paix.
Oui, l'Union juive française pour la paix. Et André Rosevet, qui est un militant local qui défend énormément la cause du peuple palestinien à tous les niveaux et qui a des positions très claires sur la désionisation, le refus du sionisme et le fait de combattre le sionisme en Palestine, Taïeb El Mestari, il l'insulte ouvertement en le traitant d'islamophobe. Mais j'ai jamais vu. Je veux dire, comment vous voulez que les gens travaillent avec le CAP si le CAP, il est tout le temps dans la division, dans l'insulte, dans le clivage, dans le binaire. Il vient inventer un schéma d'un militant pro-palestinien occidental qui est tellement caricatural, qui ne correspond pas du tout à la réalité, en disant, regardez, eux, ils sont tout mous, nous, on est les radicaux, on va venir ici pour soutenir la résistance du peuple palestinien. Ça ne peut pas tenir.
Je vais laisser Taïeb El Mestari répondre. Et en ajoutant juste une question, on a parlé tout à l'heure des moyens d'action et de qu'est-ce qui pouvait être efficace ou pas. Comment vous jugez au CAP l'efficacité que vous pouvez avoir de soutenir la Palestine ici en France et à Bordeaux?
Alors, je veux quand même répondre à la caricature qui vient d'être faite, parce que je suis obligé. Nous avons toujours travaillé sur le fond. Là, on vient de passer... on n'est pas du tout sur le fond. Cette manière de parler ne m'intéresse absolument pas. Je voudrais juste rappeler pourquoi ça existe, cette tension entre les deux organisations. Parce que dès notre création, moi, je ne parle pas dans le vide. Je vous renvoie à des sources. Dès notre création en 2004, et lorsque nous avons fait venir, par exemple, c'est juste un exemple, il y en a tant d'autres, une troupe de théâtre palestinienne à ce nom, la mairie de Senon, sous la pression du CRIF, a retiré le théâtre où devait avoir lieu cette pièce de théâtre. Effectivement, dans la presse, ils en ont parlé, et Palestine 33, à ce moment-là, c'est dans la presse, dans le Sud-Ouest, vous pouvez le retrouver, disait que nous étions anti-républicains, proches des islamistes, etc. Donc,
dans le Sud-Ouest, vous le retrouverez. Toutes ces histoires, il y aurait trop de choses si on devait démêler toutes les histoires.
Non, c'est juste pour rappeler, quand même, mettre relativiser cette caricature faite par...
Ça existait, ces attaques aussi, on ne peut pas les...
Non, mais attendez, mais moi je vous renvoie à Sud-Ouest qui fait état de cette situation-là, et juste après notre création, toutes les portes ont été fermées, parce qu'on a dit à tout le monde qu'on était antisémites. Mais bon, passons là-dessus, mais moi je voudrais revenir quand même sur le fond. Je voudrais revenir sur le fond. Effectivement, nous, notre position, Comité Action Palestine en France, c'est justement de ramener à cette idée qu'Israël ne voulait absolument pas, c'était notre combat depuis 2004, qu'Israël ne voulait absolument pas d'un deuxième État, que c'était du mensonge. L'histoire a montré qu'il y a eu 750 000, depuis les accords d'Oslo, 750 000 colons supplémentaires en Cisjordanie. Il y a Jérusalem, dont Israël veut faire sa capitale éternelle en se moquant du droit international. Donc nous avons juste essayé de faire comprendre ça à la population française, ramener les gens sur cette position qu'Israël mentait sur la question, et les Américains et les Occidentaux avec, sur la question de deux États. On le voit qu'Israël n'a jamais voulu réaliser cette idée-là. Il a torpillé les deux États lui-même, et nous avons essayé de mobiliser les gens sur la base que les Palestiniens sont les seuls à même de pouvoir décider de leur sort. Et nous avons toujours essayé de travailler sur cette base-là. Et aujourd'hui, on travaille et les portes s'ouvrent, heureusement pour nous, sur cette idée que maintenant, il faut soutenir tout simplement la résistance, et que c'est le peuple palestinien avec ses organisations qui sont légitimes à définir leur futur État, qu'il y ait deux États, ou trois États, ou quatre États, ou un seul État. Ce sont le peuple palestinien qui décide, point barre. Juste une dernière question.
Non, on n'aura pas le temps.
Ahmed parlait de la disparition du sionisme. Est-ce qu'il est pour la disparition de l'État d'Israël ?
L'effondrement du sionisme implique automatiquement l'effondrement de l'État d'Israël tant qu'il a été comme il a été imaginé par les pères fondateurs du sionisme. Le sionisme, c'est un État que pour les Juifs. Or, l'effondrement du sionisme, ça remet totalement à plat cette question-là. Et donc, on ne peut pas dire que... Ah oui, un autre point.
Alors, on vous réinvitera pour l'autre point, parce qu'on n'a plus le temps. Merci beaucoup à vous deux. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Merci beaucoup à vous deux. Tayeb El-Mestari, du Comité Action Palestine, et Ahmed Kastet, du Comité Palestine 33. J'espère qu'il y a suffisamment de choses qui ont été dites et qui permettront à chacun d'avancer la réflexion et de poursuivre cette discussion aussi sur ce qui peut vous opposer. Merci beaucoup. مش توتال لوس بس طبعا عندي ضربتي مش مجبوره مش مجبوره اتحمل نافتي اذا انا بنسى اهدي ورده لو وردتي لعيه تهدي نرجس لنرجسي